France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Tous les musiciens ont été influencés par un apport extérieur. Regardez Rimsky-Korsakov, Ravel, qui ont emprunté à l'Est, et puis Messiaen, Xenakis, Berlioz. Alors ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du joueur de sitar Ravi Shankar, celui qui est parvenu à hisser la musique classique indienne au plus haut sur l'échelle occidentale et à rendre accessible l'art du raga dans le monde entier. Lui qui défendait l'idée d'une fusion salutaire. En collaborant avec des musiciens contemporains occidentaux, je pense à Yehudi Menuhin, à Philippe Glass, à Rostropovitch, à Jean-Pierre Rampal, à George Harrison, mais aussi avec d'autres grands solistes indiens, tout en respectant les règles traditionnelles de la musique d'Inde du Nord. Un homme qui, tout au long de sa vie, a été en quête de nouveaux horizons et de lui-même, à l'image d'un héros de papier, un certain Jonathan. Bonjour Cosé.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique, scénariste, dessinateur, coloriste de la musique classique indienne pour démarrer cette émission. Vous avez choisi pour nous Ravi Shankar ici, aux côtés d'Ali Akbar Khan. Dites-nous tout, Cosé.
J'adore la musique indienne, plus particulièrement encore ce qu'on appelle le Drupad. Mais voilà, c'est une musique qui me fait planer. Alors c'est vrai que c'est pas une musique facile pour nos oreilles occidentales, C'est un goût qu'on peut développer, comme beaucoup de choses. La première fois qu'on boit du vin, enfant ou ado, c'est pas bon. Puis après, on découvre que si, ça peut l'être.
C'est une musique qu'il faut apprivoiser.
Ouais, il faut la découvrir. Il faut surtout oublier ses préjugés ou ce qu'on attend. Et puis voir ce qui vient et peu à peu en découvrir le plaisir.
C'est amusant, on pourrait dire ça aussi de la musique classique. Ou du moins, c'est un discours qui est souvent tenu au sujet de la musique classique.
Je le dirais facilement.
Occidentale.
Ouais, au sujet de la musique contemporaine. Là, c'est pareil, ça demande aussi un effort. Et pour ça, il faut s'ouvrir et patienter un petit peu, peut-être.
Dans quelle disposition êtes-vous quand vous écoutez de la musique ?
Dans la recherche de plaisir, bien sûr, mais c'est souvent pour travailler que j'écoute de la musique. Ça, pour moi, ça crée une ambiance comme une espèce de cadre dans lequel je peux éventuellement imaginer ou simplement dessiner.
C'est une manière de vous couper du monde ?
C'est une manière de me couper de pensées parasites ou de dispersion, ouais.
Donc ça n'apporte que du positif, en quelque sorte.
Complètement, ah oui.
C'est vrai ?
Ouais.
Alors il y a de la musique indienne, il y a d'autres types de musique aussi, j'imagine, qui vous accompagnent.
Moi je suis très hétéroclite.
Votre travail.
Classique, rock, pop, plein de shows contemporains. Je suis d'ailleurs frappé. Je comprends pas pourquoi, parce que dans le monde des arts visuels, je crois que les amateurs sont assez éclectiques. On peut aller voir une expo de Rembrandt et ensuite une installation d'Anish Kapoor ou de James Turrell, contemporain. C'est le même public que vous voyez dans ces expos. La musique, je trouve que les publics des musiques sont très cloisonnés.
Les gens frontières sont plus dessinées.
Oui, elles sont plus que dessinées, elles sont très formalisées. Et je comprends pas pourquoi on peut pas aimer Bach et les Rolling Stones.
C'est une excellente question. Qui vous a donné le goût à la musique, Cosé ?
C'est la musique elle-même. Personne ne m'a initié à la musique. Je l'ai découverte avec ma génération, avec le rock et la pop. Et puis j'ai essayé d'étendre ça à plein de domaines.
Alors vous êtes le créateur de la série Jonathan, dont l'ultime tome, la piste de Yeché, paraît aux éditions du Lombard. Cet infatigable voyageur qui nous emmène parcourir l'Himalaya à travers l'Inde du Nord, le Népal. Est-ce que Jonathan écoute la même chose que vous?
Ah, complètement. Moi, c'est moi qui écoute ce qu'il écoute.
Ah voilà, c'est lui qui vous dicte.
Enfin, ça, c'est la réponse à la question précédente. C'est Jonathan qui m'a initié aux différentes musiques.
Un extrait de Silwan's Song d'Arvo Pärt, interprété ici par l'orchestre de chambre de Tallinn, Tõnu Kaljuste à la direction, œuvre de ce compositeur estonien né en 1935, œuvre inspirée par les écrits d'un moine russe du 19e siècle, son nom Silwan, tout simplement. Faut-il entrer dans la musique d'Arvo Pärt comme on entre en religion, Kosé?
Non, moi je trouve que c'est une musique qui est relativement facile, qui est très planante, un peu sombre. Mais
il y a une certaine tension, tout de même.
Il y a une tension, une inquiétude, je dirais. Mais ça fait partie de la vie. On sent qu'on n'est pas loin du Nord ou de l'Est. Et je trouve ça très beau.
Et ça aussi, c'est un compositeur écouté par Jonathan qui peint même des mandalas sur du Arvo Pärt. En tout cas, c'est ce que vous nous glissez comme information dans cet album, La Piste de Yeché. Une programmation musicale accompagne d'ailleurs vos albums. Comment vous est venue l'idée?
Dès le début, hein, dès le premier album, en 78, mon but c'était d'élargir le terrain sur lequel on rencontre mon personnage. Je l'ai fait en écrivant un texte qui expliquait que Jonathan était un ami que j'avais rencontré, qui était parti en Asie, et puis en suggérant des musiques. Donc c'est pour sortir du cadre purement matériel de l'album.
Et proposer une expérience sensorielle totale, en quelque sorte.
En tout cas, à deux faces,
le plaisir
visuel
des yeux et des oreilles.
Ouais.
Et effectivement, si on retourne l'album, hein, on peut lire ceci. La piste de Yeché, une BD à lire en écoutant. Et vous nous donnez quatre propositions d'œuvres à écouter, notamment ce Silwan's Song d'Arvo Pärt que vous avez choisi de nous faire entendre.
Mais il y a aussi, c'est assez éclectique, comme on l'a dit.
Absolument.
Il y a aussi Dionne Warwick, enfin, il y a tout ce qu'on veut.
Mais cette liste aussi pourrait être continuée ou enrichie.
Oui, si on prend les 17 albums, elle est assez complète.
Il y a de quoi faire, et ça représente bien peut-être aussi ce que vous écoutez chez vous.
Oui, bien sûr, en travaillant.
Ouais. En travaillant, et ce qui vous inspire évidemment. Eh bien, je vous propose d'écouter une autre œuvre qui y apparaît dans l'album. C'est Tore Takemitsu, I Hear the Water Dreaming. On écoute Emmanuel Pahut, l'orchestre de la radio de Munich, et Ivan Repozic à la direction. Les premières mesures de cette œuvre, I Hear the Water Dreaming, Toru Takemitsu à la direction, œuvre que vous avez choisie pour nous, causer œuvre de ce compositeur japonais qui a été créé en 1987, que vous nous proposez. Comment l'avez-vous, où l'avez-vous entendu tout simplement pour la première fois?
D'abord, je vous rassure, il y aura d'autres choses plus faciles dans mon liste.
Je trouve ça très facile.
Je n'aurais pas dit facile, je trouve ça très beau, mais je pense que ça demande un petit effort, c'est-à-dire d'arrêter d'anticiper, parce que quand on écoute la musique, on anticipe ce qui va venir.
On est tellement habitué effectivement à une certaine mécanique,
exactement,
à une certaine logique.
Et là, on est complètement surpris, donc ça peut être choquant, enfin c'est déstabilisant, mais il faut accepter d'être étonné, et à partir de là, c'est d'une grande beauté, oui.
Vous êtes curieux de la musique qui se crée aujourd'hui?
Oui, je suis curieux de la musique et de la littérature et de la peinture qui se crée aujourd'hui, ouais. Mais oui. Et oui, je trouve que Toru Takemitsu apporte quelque chose d'inattendu. Ça peut rappeler un peu Debussy.
Absolument.
C'est vrai. Il le cite comme un de ses maîtres. Bien qu'il l'ait jamais rencontré, à mon avis. Mais il y a cette surprise constante qui fait que moi j'aime beaucoup.
France Musique, Saskia Deville.
Et c'est une œuvre très inspirée par la nature, évidemment. Vous évoquiez Debussy, la flûte. On pense évidemment aussi à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. La nature qui est aussi omniprésente dans vos albums, causait la montagne, les montagnes.
Ben oui, ben j'y vis, j'y suis né. J'aime les montagnes d'une manière générale. J'aime beaucoup la neige et c'est des sujets que j'aime beaucoup dessiner. en partie parce qu'il y a quelque chose d'abstrait, hein, un rocher dans la neige. Finalement, ce sont des formes qu'on peut considérer comme des éléments abstraits. On n'est pas obligé d'être foncièrement figuratif.
À la manière d'un compositeur aussi, on peut s'amuser avec les couleurs, choisir des couleurs particulières.
Ça, je peux pas m'en empêcher. J'aime les couleurs. Je crois que je suis profondément un coloriste, mais enfin, c'est difficile de vivre en ne faisant que des couleurs, en bande dessinée. Alors, j'écris mes scénarios et je les dessine aussi.
Et vous
aussi.
Les dessinez aussi, effectivement, c'est un tout. Quelles sont les couleurs, peut-être, qui vous viennent en tête quand vous écoutez cette œuvre-là, par exemple? Restons sur I Hear the Water Dreaming.
Alors là, je trouve des couleurs que j'utilise très peu. Des verts, des roses, des rouges. Et ça me ravit parce que c'est un peu d'air frais, parce qu'on a tendance à se répéter. On est à l'aise dans certains domaines, dans des couleurs, en ce qui me concerne.
Pour vous, c'est plutôt les ocres, les jaunes, les bleus.
Et absolument. Et les blancs aussi, qui est une couleur aussi. Et c'est là que je me sens à l'aise, mais donc j'aime découvrir aussi d'autres gammes.
Des couleurs jaillissantes, ici, pour cette œuvre, par exemple.
Absolument.
Vous allez nous faire découvrir, je pense, à un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs, une œuvre à suivre, qu'on va écouter du moins en partie, une œuvre intitulée Liverpool Oratorio.
Alors,
on ne dit rien? On laisse deviner?
Je vais vous donner quand même un renseignement sur cette œuvre. À mon avis, il ne faudrait peut-être pas mentionner Liverpool, parce que ça donne une piste trop claire.
Je n'ai rien
dit. C'est un oratorio qui a été composé par quelqu'un que tout le monde connaît, tous vos auditeurs et auditrices connaissent. Je vous laisse deviner de qui il s'agit.
Jerry Hadley et Kirite Kanawa, accompagnés par les chœurs et orchestres philharmoniques royales de Liverpool. Carl Davis à la direction. Je vous laisse nous présenter cette œuvre, Causer, que vous avez choisie.
Moi, je pense que tout le monde le connaît. Il s'appelle Paul McCartney.
Un certain Paul McCartney.
Voilà, il a composé cet oratorio. Il y a une très belle histoire là-dessus. Il raconte que quand il était enfant, il s'était présenté pour chanter dans les chœurs de cette cathédrale de Liverpool. Il était refusé. On trouvait qu'il chantait trop mal. Et donc, c'est amusant puisqu'il est devenu...
L'initiateur de cet oratorio, chanté par
voilà,
des chœurs.
40 ans plus tard, on lui a commandé cette œuvre. J'imagine que s'il avait été accepté, il serait peut-être jamais devenu un Beatles.
C'est fort probable, d'ailleurs.
Donc ça a été peut-être sa chance d'être refusé dans les chœurs de cette cathédrale.
Exactement, et puis adoubé par la suite, puisque, on connaît son histoire évidemment. Ici, il a reçu cette commande de l'orchestre philharmonique royale de Liverpool pour fêter les 150 ans de l'orchestre. Une œuvre qui lui a quand même pris 2 ans de son temps pour l'écrire, donc une genèse assez longue et qui raconte sa jeunesse. Ici, on écoutait un passage intitulé Crisis, donc un peu une période de crise entre lui et sa femme. Mais dans cet oratorio, on suit sa jeunesse, sa naissance tout d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, l'école, ses parents, sa rencontre avec Linda, sa femme. Une œuvre qui s'appuie sur du vécu, ça a de l'importance pour vous ?
Autobiographique, je peux pas m'en empêcher, c'est un peu comme ça que j'ai créé mon personnage Jonathan. Il y a toute une part, ou une part d'autobiographie où je raconte des choses parfois vécues, parfois c'est imaginé, c'est un doux mélange.
Parfois fantasmé aussi.
Bien sûr, tout est possible, j'ai pas de règles à suivre. Tout ce qui est bon pour raconter une bonne histoire, c'est parfait.
Et puis vous nourrissez de musique, de culture, de littérature, de philosophie, de gastronomie aussi au sein de vos albums. C'est toute cette nourriture-là finalement qui stimule votre imagination.
Oui, mais c'est intéressant à partager avec les lecteurs. Puis surtout à sortir des schémas et des stéréotypes de la bande dessinée.
Qui sont
la grande action, les coups de feu, etc.
On est dans le temps long, la place du silence aussi, elle est importante.
Elle est très importante, y compris dans la narration, ça laisse aussi de la place au lecteur pour imaginer, pour participer.
Eh bien, allez-vous plonger, chères auditrices, chers auditeurs, dans cette piste de Yeshe, ultime tome des aventures de Jonathan, qui paraît donc aux éditions du Lombard. Merci beaucoup, Cosette, d'être venue nous voir et nous partager cette magnifique playlist musicale, pleine de découvertes, je pense, pour des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent. Et puis, merci à toute l'équipe, Eric Lancien, Pauline Boisaubert, Olivier Dupré, qui était avec moi pour préparer cette émission. On va se quitter avec cette citation de Paul McCartney, justement, que j'aimerais vous faire entendre. Chaque jour, nous voyons naître de nouveaux styles musicaux, mais seule demeure, en fin de compte, la bonne musique. Celle des Beatles, de Beethoven, de Bach, des Beach Boys, de Handel, de Jimi Hendrix, de Tchaïkovski, des Who, lesquels possèdent tous, si l'on regarde de près, quelque chose en commun. Jean-Sébastien Bach, c'est donc de la bonne musique, Cosette ?
Pour moi, la bonne musique, ça veut dire, généralement, un étonnement. Lorsque je suis étonné, ça veut dire que c'est de la bonne musique.
Eh bien, ça tombe bien, puisque vous avez programmé Jean-Sébastien Bach, son concerto italien pour nous, le deuxième mouvement, l'Andante, joué par Glenn Gould. Merci beaucoup, Cosette. Et à très bientôt.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.